Merci d'écouter Europe 1. Il est 19h.
Europe Soir. Raphaël Delvolvé.
Bonsoir à tous et bon début de semaine. Ça commence par une journée noire pour la Macronie. Deux poids lourds enquiquinés par la justice. Éric Dupond-Moretti, premier garde des Sceaux, renvoyé devant la Cour de justice de la République. Et Alexis Kohler, secrétaire général de l'Élysée, mis en examen pour prise illégale d'intérêt. Tous deux sont maintenus à leur poste. Nous en parlons ce soir, entre autres sujets, avec Marion Parizet, spécialiste en politique publique, Jonas Haddad, avocat et élu Les Républicains de Normandie, et l'ancien député François Pupponi. Ce sera après le journal d'Hélène Zellani. Bonsoir Hélène, heureux de vous retrouver.
Bonsoir Raphaël, bonsoir à tous.
Le bras droit d'Emmanuel Macron à l'Élysée, mis en examen donc pour prise illégale d'intérêt, Alexis Kohler garde malgré tout son poste de secrétaire général.
Et c'est pour la même raison, prise illégale d'intérêt, que le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, est renvoyé en procès devant la Cour de justice de la République. Les détails et le décryptage de ces deux informations majeures concernant l'entourage du chef de l'État. Nous irons aussi à l'Assemblée où les travaux ont repris cet après-midi. Dans ce journal, un témoignage, celui de la compagne d'un des joueurs de foot indonésiens de la ville de Malang. Elle a échappé à la terrible bousculade qui a fait 125 morts samedi. Et puis le Nobel de médecine au chercheur suédois qui a réussi à séquencer le génome de l'homme de Néandertal. Et en plus, il y a un lien avec le Covid. Vous l'entendrez, c'est passionnant.
Allez, la tendance météo. Bonsoir Marlène Duret.
Bonsoir Raphaël, bonsoir à tous. Alors le soleil devrait s'imposer demain, une fois les brouillards et autres grisailles dissipées, à l'exception des régions bordant la Manche et la Bretagne, où les nuages resteront nombreux. Météo complète à la fin du journal.
À tout à l'heure Marlène.
Europe 1.
Le bras droit d'Emmanuel Macron dans la tourmente, Alexis Kohler, a donc été mis en examen pour prise illégale d'intérêt.
Oui, il s'agit de l'enquête sur ses liens avec l'armateur italo-suisse MSC. Qu'est-ce qu'on lui reproche exactement, Arthur Delaborde ?
Eh bien, ce sont d'abord ses liens familiaux avec la dynastie Aponte, propriétaire du géant du fret maritime. La mère d'Alexis Kohler n'est autre que la cousine germaine des fondateurs de l'entreprise. Il y a aussi un lien professionnel entre le secrétaire général de l'Élysée et MSC. De 2008 à 2012, il fut membre du conseil de surveillance de la société, tout en étant à la fois sous-directeur à l'agence des participations de l'État. C'est donc à ce titre qu'il est soupçonné d'avoir validé des contrats sans faire état de sa proximité personnelle avec l'armateur. Avant de rejoindre Emmanuel Macron à l'Élysée en 2017, Alexis Kohler avait même passé quelques mois chez MSC à Genève au poste de directeur financier. Il y a 10 jours, il a donc été mis en examen pour prise illégale d'intérêt et placé sous le statut de témoin assisté pour trafic d'influence. Ce soir, dans un communiqué, son avocat conteste avec force qu'il ait commis le moindre délit et déplore, je cite, que le juge d'instruction n'ait pas pris en considération les éléments objectifs à décharge dans ce dossier. Du côté de l'entourage d'Emmanuel Macron, eh bien on fait savoir ce soir que le secrétaire général de l'Élysée va rester à son poste.
Et un autre caillou dans la chaussure d'Emmanuel Macron, le renvoi d'Éric Dupond-Moretti devant la CJR, la Cour de justice de la République.
Oui, c'est une première dans l'histoire de la République. Un membre du gouvernement en exercice va donc devoir comparaître devant cette juridiction pour tout arranger. Il s'agit du ministre de la Justice, auquel on reproche, pour faire simple, d'avoir profité de sa fonction pour régler ses comptes avec des magistrats. Peut-il rester au gouvernement, Alexandre Chauveau ? C'est la question qui agite la classe politique.
Oui, et forcément, la question embarrasse la Macronie qui ne souhaite pas gêner l'action du gouvernement, mais qui appelle dans le même temps au respect de la présomption d'innocence. Prisca Thévenot, députée Renaissance des Hauts-de-Seine.
Laissons la justice travailler. Il y a un temps pour la justice, il y a un temps pour les médias, et souvent ils ne sont pas concordants. Est-ce que le ministre de la Justice est encore crédible à son poste ? Oui, nous laissons la justice se faire.
Alors en matière de démission, en cas de mise en examen, Emmanuel Macron ne suit pas de règles précises. Autant François Bayrou avait été contraint de quitter le gouvernement en 2017, autant Éric Dupond-Moretti est resté en poste depuis sa mise en examen en juillet 2021. Parmi l'opposition, c'est surtout le fait qu'Éric Dupond-Moretti soit précisément ministre de la Justice qui pose problème, comme l'explique Sébastien Chenu, député RN du Nord.
Une mise en examen ne vaut pas sortie automatique du gouvernement, mais le problème, c'est que c'est le ministre de la Justice. Donc un ministre de la Justice qui a des problèmes avec la justice, effectivement, on pourrait imaginer qu'il puisse se mettre en retrait, qu'il sorte du gouvernement.
Et les avocats du garde des Sceaux ont indiqué ce pourvoi en cassation. Il n'y a aucune raison juridique pour qu'il démissionne, affirme même son avocat Maître Ingrain.
Alexandre Chauveau.
La politique, toujours, ces jours de rentrée dans l'hémicycle.
Oui, reprise des débats avec d'abord la guerre en Ukraine. Selon Elisabeth Borne, la France est déterminée à ce que les crimes commis par la Russie soient documentés, jugés et punis. La Première ministre défend également les sanctions.
Notre objectif est le même depuis le début. Rendre le coût de la guerre insupportable pour la Russie. Frapper durement son économie pour l'empêcher de financer son offensive. Nous avons pris des sanctions massives et de tous les ordres. Et ces sanctions, n'en déplaisent à ceux qui masquent leur fascination pour l'impérialisme russe par un prétendu patriotisme, elles fonctionnent. Moscou tente pour l'instant de maintenir l'illusion. Mais les faits sont là. La propagande russe ne doit pas nous berner. L'économie russe est à l'asphyxie.
Elisabeth Borne qui, devant les députés, annonce également une aide financière à partir de fin novembre pour les ménages français qui accueillent des réfugiés ukrainiens. Alexis de la Fontaine, vous êtes à l'Assemblée. Cette question de l'Ukraine est relativement consensuelle. En revanche, c'est ce soir avec le débat sur la réforme de l'assurance chômage que l'ambiance va se corser.
Oui, ici, dès 21h30, les lions seront lâchés dans l'hémicycle avec un sujet plus clivant que jamais, réformer les droits des chômeurs pour espérer obtenir le plein emploi. Une mesure totalement injuste pour la gauche. Alors Alexis Corbière, député insoumis, se prépare à affronter le gouvernement.
C'est la bagarre qui commence, la bagarre sociale, dans le sens où il faut créer les conditions que ça ne passe pas, parce que c'est un recul social. Donc on va faire entendre nos arguments, on va essayer de convaincre sur le fait que c'est un mauvais texte économiquement. C'est pas vrai que quand on baisse les droits des chômeurs, ça fait reculer le chômage.
Certains députés insoumis menacent même de faire de l'obstruction parlementaire en déposant des milliers d'amendements. Alors, dans les rangs de la majorité, on refuse cette escalade de la confrontation. Prestia Thévenot appelle donc les oppositions à la responsabilité. Il ne faut pas s'opposer, mais s'additionner, lance la députée. Enfin, ce soir, la majorité espère surtout obtenir le soutien des Républicains pour faire adopter le projet de loi sur le chômage.
Alexis de la Fontaine à l'Assemblée pour Europe 1. Et puis Emmanuel Macron est apparu en col roulé dans une vidéo tout à l'heure pour appeler les Français à participer au CNR, le Conseil national de la refondation. Il faut, dit-il, transformer la France envers et contre tous les blocages.
Et nous revenons évidemment sur l'actualité politique du jour, juste après le journal. 125 morts, dont 32 enfants. Terrible bilan de la bousculade meurtrière dans un stade de foot en Indonésie.
300 personnes ont également été blessées samedi. Première sanction tout à l'heure, limogeage du chef de la police de la ville et suspension de 9 policiers. Un témoignage ce soir sur Europe 1, celui de Tiphaine Poulon. Cette Française est la compagne d'un des joueurs de l'équipe qui a perdu et dont les supporters en colère ont envahi le terrain. Elle était présente dans le stade au moment du drame et elle raconte les heures d'angoisse qu'elle a vécues.
D'un coup, de tous les côtés, une avalanche en fait de personnes. Donc mon copain était en train de marcher pour rentrer et en fait il s'est fait sauter dessus par une dizaine de supporters qui en fait l'ont insulté, lui ont donné des coups de coude. Donc la police a commencé à... Ils ont sorti les bombes lacrymogènes. Je ne sais pas ce que c'est en fait leur gaz. C'était tellement épais que c'est vraiment monté dans les airs jusqu'à nous. D'un coup, la foule est partie en courant et est repartie vers les tribunes pour s'en aller. Et du coup, la sécurité nous a demandé de descendre. Et ils nous ont fait rentrer dans les vestiaires de l'équipe adverse. Du coup, on est resté 2 heures à peu près bloqués dans cette salle, sans réseau, sans rien. On avait juste des nouvelles de temps en temps de la sécurité qui venait nous dire « il y a 10 morts, il y a 20 morts, il y a 30 morts, il y a 40 morts ». Et nous, on s'est arrêté à 40 morts. Quand on est enfin sorti, on a vu toutes les forces de l'ordre. Donc, il y avait l'armée, il y avait la sécurité du stade, il y avait la police. Ils étaient tous assis par terre sur le béton, quoi. Et personne ne parlait, ils respiraient très fort, ils poussaient. Il y en avait qui saignaient, etc. Mais personne ne parlait. La nuit est passée, c'est en matin, en se réveillant, qu'on a vu qu'il y avait 129 morts.
Un bilan finalement revu à 125 morts. Tiphaine Poulon, jointe en Indonésie par Wilfried De Villers. Ce n'est malheureusement pas la première fois une touriste indienne de 30 ans s'est tuée en faisant un selfie du haut de la falaise d'Etretat en Normandie. 2 autres chutes mortelles se sont déjà déroulées au même endroit cette année, à chaque fois en prenant des photos.
Restez avec nous sur Europe 1 dans un instant. La grève des écrans géants pour le mondial de foot au Qatar. Ils sont bannis de plusieurs villes françaises, notamment Marseille. Restez avec nous sur Europe 1.
Europe Soir, 19h, 20h.
Raphaël Delvolvé. Merci d'être avec nous sur Europe 1, la suite du journal d'Hélène Zélani. Si vous comptez regarder les matchs du mondial de foot sur écran géant, ça risque d'être compliqué.
Et oui, de plus en plus de villes annoncent qu'elles ne diffuseront pas les rencontres de la compétition qui se joue au Qatar du 20 novembre au 18 décembre prochain. Ni fanzone, ni écran géant. À Bordeaux, Nancy, Strasbourg, Lille ou encore Rodez. Pas d'écran non plus dans une ville qui pourtant adore le foot, Marseille. La mairie n'organisera aucune festivité pour faire la promotion du mondial, Stéphane Burgat.
Oui, faites ce que vous voulez de votre côté, mais la mairie ne programmera rien, résume l'adjoint au sport Sébastien Gibrayel, qui ne se retrouve pas dans ce mondial.
On aime l'OM, on aime le ballon, évidemment, mais pas à n'importe quel prix. Progressivement, cette Coupe du Monde s'est transformée en catastrophe humaine et environnementale. On appelle les citoyens à la sobriété énergétique et dans quelques semaines, on va avoir des stades ouverts où on aura une climatisation à plein tube. Donc voilà, on ne s'y retrouve pas.
Et alors les Marseillais, dans tout ça, du côté du boulodrome de Bonnevaine, cette décision fait débat. C'est une bonne idée pour Jo.
Malheureusement, ça serait dommage parce qu'il y a tellement de mordus d'être privé de ces beaux matchs. Mais dans un sens, il vaut mieux se priver que de regarder des images qui peuvent nous faire mal au cœur. Moi, je suis humain et je pense à tous ces ouvriers qui sont morts.
Jean-Claude, lui, ne comprend absolument pas ce boycott.
Marseille, c'est une ville de football. Le symbole, il est très fort, j'en doute pas. Mais on l'attend tous, regardez. Non, mais c'est important. On a assez d'établissements qui ont des grands écrans pour continuer la fête. Et c'est tous les 4 ans, il ne faut pas oublier. Hein.
Et d'autres, au final, relativisent sur l'absence d'écrans géants en plein air, puisque courant novembre, décembre, même à Marseille, les soirées peuvent être très fraîches.
Stéphane Burgat, en effet, à Marseille. Et pour l'instant, la question d'un boycott des écrans géants n'est pas tranchée à Paris. Et puis le Français Arnaud Gérald remporte son deuxième titre de champion du monde d'apnée à seulement 26 ans. Il est descendu à 123 mètres de profondeur avec sa monopalme.
Intérêt à bien se protéger les oreilles. Hein. Le prestigieux prix Nobel de médecine décerné à un chercheur suédois.
Oui, et je vous ai épargné son nom, Raphaël. Ce chercheur, c'est Svante Pebo. Son fait d'armes, c'est le séquençage complet du génome de l'homme de Néandertal, Céline Géraud.
Oui, le paléogénéticien, qui se qualifie lui-même d'archéologue du génome humain, a pu reconstituer l'ADN de l'homme de Néandertal, disparu il y a près de 40 000 ans, avant l'avènement de l'Homo sapiens. Et grâce à l'étude approfondie d'un os, retrouvé en 2008 en Sibérie, pourtant fortement dégradé par le temps et les bactéries, le scientifique de 67 ans a déterminé que l'on retrouve encore des traces de ces gènes archaïques chez l'homme aujourd'hui.
Et aussi étonnant que ça puisse paraître, Céline, ces recherches ont un lien avec le Covid.
Effectivement, en 2020, Svante Pebo a prouvé que la transmission ancienne de ces gènes affecter la manière dont notre système immunitaire réagit aux infections. Mais il a aussi décelé une portion particulière de cet ADN, hérité de l'homme de Néandertal, chez les malades les plus graves du Covid. Une découverte majeure qui explique sans doute pourquoi les décès du Covid sont plus fréquents en Asie du Sud, où ces fragments d'ADN ont été souvent retrouvés. Enfin, petit clin d'œil du destin, Svante Pebo décroche ce Nobel de médecine 40 ans, jour pour jour après son père, Sune Bergström, mais aussi la récompense qui l'accompagne, près de 920 000 euros.
Céline Géraud, et puisqu'on parle du Covid, je vous rappelle que ce lundi marque le début de la campagne de rappel avec les nouveaux vaccins contre les variants Omicron. Ils sont recommandés pour les 60 ans et plus, les immunodéprimés et leur entourage, les femmes enceintes, les enfants et adolescents à haut risque, ainsi que pour les professionnels des secteurs sanitaires et médico-social. Ce revirement dans le monde des médias, finalement, le géant Bertelsmann renonce à CDM6. Le groupe cherchait à vendre sa participation majoritaire au capital de la chaîne après l'échec de la fusion avec TF1. On passe au marché financier. Bonsoir Claire Lemaître.
Bonsoir Hélène.
De boursier.com. La semaine démarre en légère hausse à Paris.
Oui, c'était pourtant mal parti avec un CAC 40 en baisse de plus de 1% ce matin. Mais Wall Street est venue à la rescousse. Les marchés américains sont en forte hausse ce soir. Et à Paris, on est donc sur un gain de 0,56%, 5794 points. Donc une petite hausse, même si les inquiétudes sont toujours aussi nombreuses en bourse. C'est du vert partout en Europe. Francfort et Amsterdam gagnent 0,8%, plus 0,2% pour Londres, Milan plus 1,6%. Et à Paris, le CAC 40 avance de 0,6%, 5794 points.
Merci Claire Lemaître.
Et c'était le journal d'Europe 1 avec Hélène Zellani. Merci Hélène, à demain. La météo. Et on retrouve Marlène Duret. Marlène, le soleil va finir par s'imposer dans la plupart des régions.
Demain, oui, parfois tardivement, Raphaël, il faut le dire, puisque à cette époque de l'année, l'anticyclone présent sur la France piège l'humidité dans les basses couches de l'atmosphère et favorise donc la formation de brouillard, c'est classique, des plaques de grisaille, et ce sera le cas sur une large moitié nord. Demain, au lever du jour, le temps sera souvent gris, brumeux, mais certaines régions peuvent y échapper, et puis une fois les brouillards dissipés, le soleil se montrera à quelques exceptions près, puisque, je le disais tout à l'heure, le ciel s'annonce quand même plus variable des Hauts-de-France à la Normandie, au Pays de la Loire et à la Bretagne. Quelques plaques peuvent résister aussi dans le département de l'Ain et de ses environs, donc dans le nord de la région Rhône-Alpes. Les températures au petit matin sont en baisse. Dans le Grand Est, le thermomètre affichera 4 à 6 degrés contre 13 à 16 sur la Côte d'Azur. En général, il fera 7 à 12 demain matin. Et puis les maximales seront comprises entre 18 et 27 degrés du nord au sud. Alors 18 au Havre par exemple, 19 à Dole, 22 à Saint-Pierre-d'Oléron, à Paris, à Annecy, 25 à Dax, Toulouse, Montélimar et puis ça peut monter jusqu'à 26 à Tarbes et Bastia.
C'est bien noté, merci Marlène Duré. On vous retrouve pour un nouveau point météo à 23h sur Europe.
À tout à l'heure.
À tout à l'heure. Et quant à nous, nous passons en revue, nous commentons, nous décryptons l'actualité. Nous sommes ce soir avec Marion Pariset, spécialiste en politique publique, Jonas Haddad, avocat, et l'ancien député François Pupponi. C'est dans quelques instants, c'est même tout de suite. Restez avec nous sur Europe 1.
19h, 20h. Raphaël Delvolvé.